Philippe Goguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé chez In Extenso Tourisme Culture Hôtellerie, membre de Deloitte. Votre cabinet vient de réaliser une enquête sur l'évolution de la part des commissions versées aux distributeurs par les établissements hôteliers. C'est la deuxième enquête que vous réalisez sur ce sujet, la première datée de 2013, et vous aviez regardé les évolutions entre 2008 et 2012. Dans cette deuxième enquête, vous regardez la période, surtout 2014-2015, avec un petit focus également de 4 ans, 2011-2015. Quels sont les principaux enseignements de cette nouvelle, de cette deuxième enquête qui reste à ce jour exclusive? Vous êtes les seuls à produire ce type de recherche à l'heure actuelle.
Déjà, l'enquête est un petit peu plus flatteuse en quelque sorte que la première que nous avions faite parce que à l'époque, nous observions des progressions de commissions d'agences de voyage en ligne, d'OTA, alors que certains chiffres d'affaires étaient en recul. Là, cette fois-ci, les chiffres d'affaires sur la période jusqu'en 2015 étaient en progression. Et donc, on peut plus facilement admettre qu'en face de ces progressions de chiffres d'affaires, les commissions versées aux agences de voyage en ligne soient également en progression. Ceci étant, on voit bien que ces progressions sur la période 2011-2015 sont extrêmement rapides. Elles vont jusqu'à 50% pour l'hôtellerie économique, lorsque ces mêmes progressions sont relativement stables, pour ne pas dire inexistantes, entre 2014 et 2015. Donc il y a en quelque sorte une maturité de ce marché de l'agence de voyage en ligne que l'on observe, peut-être une meilleure maîtrise, peut-être une nouvelle réglementation également qui influence l'organisation et la pratique. Mais globalement, l'agence de voyage en ligne est passée désormais dans les pratiques, en quelque sorte, avec, encore une fois, une forme de tassement sur 2015, mais un début de décennie qui reflète bien une très forte consommation.
Maturité, dites-vous, mais l'on observe toutefois des écarts de résultats, de performances selon les gammes. On voit, et vous l'avez dit, le secteur économique, encore très utilisateur de distribution via des agences en ligne, alors que c'est la même chose aussi pour le haut de gamme et pour le milieu de gamme. Pour ces trois gammes, on voit que la part des commissions versées en 2015, la progression de ces commissions en 2015 est restée supérieure à la progression des chiffres d'affaires sur ces gammes. C'est aussi vrai pour le luxe.
Il faut souligner à quel point les hôteliers que nous avons interrogés nous ont répondu spontanément. Non seulement parce qu'ils avaient peut-être encore en tête la première étude que nous avions faite il y a 4 ans, mais également parce que ces statistiques que nous leur diffusons leur apportent un baromètre supplémentaire, un tableau de bord supplémentaire. Ces commissions versées aux agences de voyage en ligne sont pour les hôteliers un vrai sujet, une vraie préoccupation, parce que c'est un moyen de distribution extrêmement efficace, mais en même temps, une charge supplémentaire qui vient compléter en quelque sorte toutes les progressions, pas uniquement les évolutions qui peuvent être dans un sens ou dans l'autre, toutes les progressions de charges et qui viennent grignoter année après année leurs résultats bruts d'exploitation. Et effectivement, sur cette période 2011-2015, la part de la commission par rapport au chiffre d'affaires a augmenté de 1,3 à 1,5 points du chiffre d'affaires. Et donc, c'est bien concrètement, en quelque sorte, des coûts qui sont en sensible progression. C'est vrai que l'hôtellerie de luxe affiche sur cette période la plus faible progression, avec une progression de 11%. Lorsque les autres catégories affichent une progression qui va de 40 à 50%. Si on regarde par catégorie ce que représentent en 2015 les commissions sur un plan national, l'hôtellerie milieu de gamme a une charge qui représente 8,3% du chiffre d'affaires, lorsque l'hôtellerie de luxe n'a une charge qui représente que 5,6% du chiffre d'affaires, avec effectivement sur cette période un montant de commission pour l'hôtellerie de luxe qui a un tout petit peu baissé. Notre analyse par rapport à ça, c'est bien de dire que l'hôtellerie de luxe a sans doute suffisamment de signes distinctifs par rapport à ses concurrents et par conséquent peut avoir une commercialisation en direct un petit peu plus efficace que l'hôtellerie milieu de gamme, que l'hôtellerie même, pourquoi pas, économique, qui est, entre guillemets, et c'est pas négatif, qui est plus banalisée et qui, par conséquent, a besoin de plus d'outils pour défendre ses parts de marché et pour se commercialiser.
En termes comptables, les commissions sont classées dans les rémunérations d'intermédiaires et honoraires, compte de résultat, la 622, je crois.
Oui.
Vous avez certainement une idée assez précise de ce que représente, de ce que pèsent ces rémunérations d'intermédiaires par rapport au résultat brut d'exploitation.
Si on prend une commission qui effectivement représente, disons pour le milieu de gamme, 8% du chiffre d'affaires, le milieu de gamme, quand il est hôtel bureau, son résultat d'exploitation peut représenter entre 45 et 55%, peut-être dans les bons cas autour de 50%. S'il y a 8% du chiffre d'affaires qui sont pris dans cette commission, ça fait pratiquement 15% du résultat d'exploitation effectivement qui sont versés à ces intermédiaires.
Donc on comprend bien là l'importance de cette charge et son poids sur l'équilibre financier de l'entreprise.
C'est un poids, c'est certain. Ensuite, il faut relativiser avec deux points. Le premier, c'est que si on regarde l'hôtellerie et ses canaux de distribution il y a quelques dizaines d'années, l'hôtelier faisait appel à d'autres intermédiaires, qu'on appelle toujours pour certains d'ailleurs des tours opérateurs, même si ceux-ci travaillent plus sur l'hôtellerie de loisirs que sur l'hôtellerie de centre-ville comme Paris. Mais on leur était bien redevables, nous hôteliers, d'une commission qui était autour d'une vingtaine de pourcents du chiffre d'affaires qu'ils nous amenaient, chiffre d'affaires qui était d'ailleurs lourdement négocié. Ça c'est un premier point. Donc les OTA ont remplacé en quelque sorte une autre forme de distribution, rien de négatif à ce niveau-là. La deuxième chose qui est évidente, c'est qu'aujourd'hui, l'hôtelier dispose d'un certain nombre d'opportunités de communication, de distribution, on peut parler des réseaux sociaux, et donc il faut bien mettre à sa place toute la vertu des agences de voyage en ligne qui apportent, entre guillemets, très souvent un sang neuf aux hôteliers, une clientèle qu'on aurait sans doute pour une partie d'entre elles pas pu faire venir de notre hôtel autrement. Ensuite, c'est le rôle de l'hôtelier de la fidéliser, de lui apporter tout le service personnalisé que ce client attend pour que, par la suite, au lieu de passer par des OTA, le même client puisse passer en direct chez l'hôtelier. Rien de criminel non plus à ce niveau-là, c'est bien le travail de l'hôtelier de se distinguer par son service et par conséquent de fidéliser et de se dédouaner ensuite de la commission correspondante. Donc l'hôtelier, il a une manette supplémentaire grâce aux OTA depuis une dizaine d'années, à charge pour lui de s'en servir et de doser ce réseau de distribution supplémentaire.
Si l'on devait retenir peut-être un mot-clé de votre analyse, ce pourrait être celui de maturité. On voit bien qu'entre 2014 et 2015, la part des commissions est restée relativement stable. C'est un constat inédit. Ça ne s'était jamais produit pratiquement au cours des 10 dernières années. 2015 serait la première année où l'évolution des commissions serait restée à un niveau pas étal, mais assez stable. On peut dire cela ?
Si on regarde les chiffres de 2015, effectivement, on a l'impression d'arriver sur ce qu'on peut qualifier de plateau. On arrive à une évolution proche de zéro, avec toujours des montants de commissions extrêmement significatifs, mais effectivement, peu d'évolution pour la valeur absolue, en quelque sorte, qu'apporte l'OTA à l'hôtelier. Et je pense que désormais, l'hôtelier va utiliser certainement ce canal de distribution avec différentes opportunités suivant les saisons et suivant même l'année où se trouve l'hôtel dans son développement. Il est évident qu'un hôtel qui est en cours d'ouverture, il peut certainement accélérer sa montée en puissance. Nous, dans nos études de faisabilité, on estime toujours une montée en puissance pour atteindre le rythme de croisière en 3 ou 4 ans. On peut imaginer que grâce aux OTA, l'ouverture puisse atteindre son rythme de croisière de façon plus rapide parce que on va presque dire du jour au lendemain, si son prix est bien positionné sur les réseaux des OTA, si l'hôtel apparaît dans les premières places de ces mêmes OTA, pourquoi pas atteindre des complets plus rapidement, être connu grâce aux OTA, et ensuite, progressivement, en deuxième, troisième année, s'exonérer des OTA, pas complètement, mais au bénéfice de plus en plus de clientèle en direct ou d'autres canaux peut-être un petit peu moins coûteux.
Ou fidéliser, clientèle fidélisée, parce que l'OTA apporte le premier client, un nouveau client pour la première fois.
Et donc, elle va s'exonérer effectivement des OTA en fidélisant son client. Ensuite, tout le monde sait que l'activité hôtelière est très loin d'être linéaire. Je ne parle pas des à-coups brutaux qu'on vient de subir avec les attentats, mais on a tous une saisonnalité dans la semaine. Le samedi et le dimanche, quand on a beaucoup d'hommes d'affaires, sont plus compliqués que les jours de semaine. Le mois de juillet, août ou le mois de janvier peuvent être différents de la même façon quand on a beaucoup d'hommes d'affaires ou suivant les sites à charge pour l'hôtelier, d'ouvrir plus de vannes, entre guillemets, pour les OTA dans ces périodes creuses et de limiter l'accès au planning dans des périodes un petit peu plus naturelles, traditionnelles et faciles à remplir.
Si on analyse les résultats par zone géographique, grande zone, Paris, province, Côte d'Azur, on voit qu'il y a un léger fléchissement de la part des commissions sur Paris, très léger, hein, c'est de l'ordre du dixième. En province, on sait que, en règle générale, les hôtels en province sont plus générateurs de ventes intermédiarisées que les établissements parisiens. Là aussi, on observe une stabilité, un plateau. Et sur la Côte d'Azur, le mouvement est en retrait pour le luxe et en très 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 légère augmentation pour le haut de gamme. Donc le constat s'observe sur les trois grandes zones géographiques, Paris, province, Côte d'Azur, avec toute légère progression de province, mais au dixième de point.
Oui, c'est ça. Il n'y a que la province qui continue à un tout petit peu progresser. L'observation par région montre que sur Paris, on a une très grosse différence de part de commission par rapport au chiffre d'affaires entre le milieu de gamme qui est à 11% de son chiffre d'affaires. 11% du chiffre d'affaires, ça veut dire, si je reviens sur mes 50% de RBE, ça va faire 25% pratiquement du RBE qui sont grignotés par les commissions.
Comment vous expliquez cela ? Il y a une très forte concurrence sur Paris, sur ce segment de gamme ?
Je pense que le milieu de gamme, même si ce n'est pas ce segment qui fait le plus de papier auprès des journalistes, on s'intéresse au péninsula, on s'intéresse moins aux boutiques hôtels, 3 à 4 étoiles qui sont pourtant magnifiques, qui s'installent dans Paris, dans des petits immeubles qui font en général 1500-2000 m². C'est bien sûr ce segment que l'offre se développe le plus vite et qui par conséquent a besoin le plus d'utiliser ces réseaux. L'hôtellerie de luxe, elle, qui a sans doute une stabilité un petit peu plus importante dans l'évolution de son offre, a sans doute plus de signes distinctifs. L'adhésion à des réseaux commerciaux, à des chaînes hôtelières, leading ou autres, qui leur apporte une part de clientèle significative et qui les amène à moins d'utilisation des OTA. Dernier point là-dessus, cette commission qui est payée sur le chiffre d'affaires hébergement, et donc qui vient se comparer au chiffre d'affaires hébergement, va apporter une clientèle que pour la partie hébergement dans le milieu de gamme parisien, alors que ce pourcentage qui est de 4,5% du chiffre d'affaires hébergement dans l'hôtellerie de luxe apporte en même temps une consommation supplémentaire dans la restauration, dans le spa ou dans d'autres services que peut proposer l'hôtellerie haut de gamme, l'hôtellerie de luxe. Ce qui m'amène à souligner que les boutiques hôtels dont je parlais il y a quelques instants profitent eux-mêmes de plus en plus de cette commission payée sur le chiffre d'affaires hébergement parce qu'ils s'inscrivent dans cette tendance lourde de produits hôteliers plus complets. On est en train de muter de produits hôteliers qu'on appelle hôtel bureau vers des produits hôteliers dans lesquels la restauration est un vrai atout, un vrai argument de différenciation et qui, en effet, permet à l'hôtelier de compléter sa rentabilité avec ce point de vente supplémentaire.
De l'hôtel de bureau, on passe à l'hôtel de vie.
On passe à des lieux de vie qui effectivement sont ouverts ou s'ouvrent tout au moins non seulement à l'animation que peut apporter la clientèle, mais en fait ce clientelier qui arrive autour de 17 à 19 heures, il trouve dans le lobby, il trouve dans le restaurant qu'il va traverser pour aller à la réception, souvent une clientèle locale. Il trouve des résidents qui viennent consommer à la sortie, soit des bureaux, soit en apéritif avant de sortir ailleurs. Et ces lieux de vie, ils sont également attractifs pour une clientèle locale qui trouve un point de rendez-vous intéressant pour eux, extrêmement valorisant financièrement pour l'hôtelier.
2015, un plateau, un palier. Est-ce qu'il est raisonnable de penser, compte tenu aussi de ce nouveau contexte réglementaire, que 2016, puis 2017, etc., les prochains exercices vont voir un léger fléchissement de ces parts de ces commissions? Est-ce que c'est quelque chose qui peut s'anticiper, se prévoir? On est encore dans le vieux pieux et dans une perspective qui n'est pas forcément souhaitable.
Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille souhaiter un tassement de l'utilisation des OTA par les hôteliers. Les OTA apportent, encore une fois, un 109, apportent un outil supplémentaire à l'hôtelier qui voit sa distribution extrêmement compliqué parce qu'on n'est pas en concurrence avec des hôtels à côté, on est en concurrence avec, quand on est à Paris, avec Barcelone, avec Venise, avec pourquoi pas Singapour.
Et avec d'autres formes d'hébergement touristique.
Je ne parle pas d'Airbnb, sinon on y passerait toute l'après-midi. Et là, il y a effectivement bien une concurrence déloyale, alors que l'OTA n'a rien à voir et au contraire apporte une vraie vertu dans le compte d'exploitation de l'hôtelier. La législation a sans doute mis de l'ordre dans le fonctionnement des OTA et dans ce que les OTA pouvaient imposer aux hôteliers de façon abusive à certains moments. En revanche, ce que je pense, c'est que l'hôtelier lui-même a changé sa pratique des OTA en favorisant la carte de fidélité, en offrant une prestation, que ce soit la bouteille d'eau ou autre chose, quand on passe en direct. C'est le cas du Wi-Fi qui marche beaucoup plus vite quand on réserve en direct, qui marche que dans le lobby, dans certains hôtels, quand on réserve par l'OTA. Donc l'hôtelier lui-même gère cet OTA en favorisant effectivement des réservations en direct, mais il ne souhaite pas s'en exonérer complètement parce que ça reste un canal extrêmement valorisant pour la profession.
Les résultats que vous communiquez dans votre enquête, les tableaux, sont des moyennes, quel que soit le type d'établissement. Il y a une segmentation par gamme et par zone géographique, bien sûr. Mais est-ce que les résultats ne sont pas sensiblement différents selon que l'on parle d'hôtels indépendants, d'hôtels affiliés à des chaînes volontaires ou d'hôtels membres de réseaux hôteliers intégrés? On sait que les réseaux hôteliers intégrés, mais aussi maintenant les chaînes volontaires, négocient et concluent des accords cadres avec les agences au bénéfice de leurs membres, de leurs adhérents, avec des taux de commission, des conditions contractuelles plus intéressantes pour leurs adhérents. Est-ce que vous pouvez affiner l'analyse en fonction du type d'établissement indépendant, affilié ou intégré?
Ça, c'est une bonne piste de réflexion. Il va falloir qu'on rajoute des colonnes dans nos statistiques. Pour l'instant, on n'est pas descendu à ce niveau d'analyse. Ce n'est pas très compliqué à faire. Mais c'est certain que les chaînes hôtelières ont négocié effectivement des taux de commission très sensiblement inférieurs à celles auxquelles sont soumis les hôteliers indépendants. En contrepartie, on peut se demander dans quelle mesure le volume ne peut pas être un petit peu supérieur sur ces hôtels de chaîne, dont les taux d'occupation sont, on va dire en général, sensiblement supérieurs à ceux des hôteliers indépendants, grâce bien sûr aux éléments de la chaîne, des cartes de fidélité dont on parlait, mais aussi par une meilleure utilisation, une utilisation peut-être plus intensive de ces agences de voyage en ligne.
Deux mots, Philippe Gobier, de la méthodologie, votre panel d'enquête, les conditions de réalisation de cette enquête.
Ça me permet de remercier tous les hôteliers, il y en a presque un sur deux en France, qui participe chaque mois depuis une vingtaine d'années à notre observation statistique sur l'hôtellerie et désormais sur les résidences de tourisme et sur d'autres formes d'hébergement en France. Donc je les remercie et je remercie effectivement tout particulièrement les centaines d'hôteliers qui ont bien voulu prendre du temps si précieux pour répondre à cette enquête spontanée qui leur permet maintenant d'avoir certains outils, mais qui a été distribuée à un panel d'hôteliers qui répond déjà à nos statistiques pour analyser sur les années récentes l'évolution de leur chiffre d'affaires, de leur taux d'occupation, de leur prix moyen et des commissions. C'est une enquête qui prend du temps aux hôteliers parce qu'ils sont obligés d'aller fouiller dans leur comptabilité ce poste de charge, alors que les postes de chiffre d'affaires, ils sont plus à portée de main en quelque sorte. Et donc je les remercie d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête.